Deutsche Welle. Droits et libertés. Depuis le 19 août, les manifestations se multiplient au Togo contre le président Fornia Simbé, à l'appel de l'opposition pour réclamer le retour à la Constitution de 1992 et à la limitation du nombre de mandats présidentiels. Ces manifestations ne sont pas toujours autorisées et la plupart du temps, elles sont réprimées avec force. Ghislain Kofi Nyaku du collectif des associations contre l'impunité au Togo dénonce à la fois les violations des droits de l'homme perpétrées notamment par les forces de l'ordre togolaises, mais il appelle aussi les manifestants à la modération. Ghislain Kofi Nyaku est notre invité cette semaine. Au micro, Sandrine Blanchard. Bonjour à tous.
Je m'appelle Ghislain Kofi Nyaku. Je suis le directeur exécutif du collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT.
Monsieur Nyaku, ça fait presque un an maintenant que vous êtes directeur exécutif du CACIT. Est-ce qu'il y a eu une dégradation de la situation au Togo ?
Nous étions partis pour nous féliciter dans les premiers mois de l'année, surtout que nous avons eu un nouveau code pénal criminalisant la torture et que nous étions en train de travailler à ce que l'impunité des actes de torture soit une effectivité. Quand il y a eu la situation des manifestations que nous avons connues à partir du 19 août, avec comme conséquence une régression du respect des droits de l'homme dans le pays.
Pour la période qui allait du 19 août, début des manifestations de l'opposition, au 31 octobre dernier, vous aviez comptabilisé 14 morts, dont 12 manifestants, 236 blessés, 400 personnes arrêtées. Où est-ce qu'on en est maintenant à la mi-décembre ?
Oui, nous sommes au 31 novembre. Nous avions finalement 17 décès pour manifestants et les forces de l'ordre, c'est toujours les deux. Au nombre des arrestations, nous avons 333 arrestations, aucun au niveau des forces de l'ordre. Et c'est ce que nous déplorons aussi si on voit le nombre de décès. Donc, il doit y avoir forcément des forces de l'ordre qui doivent pouvoir être inquiétées, arrêtées, interrogées. Mais nous n'avons pas cette situation. Il y a aujourd'hui plusieurs blessés. Nous avons 241 personnes que nous avons constatées, nous, à notre niveau CACIT, comme des personnes qui ont été blessées. Et rien, aucun au niveau des forces de l'ordre. C'est autant de situations que nous déplorons qui montrent aujourd'hui la dégradation du respect des droits de l'homme.
Justement, vous avez également pu établir l'existence de violences policières, que ce soit au moment des arrestations ou au moment aussi des gardes à vue, que le droit des personnes interpellées et détenues, même en détention provisoire, était bafoué. Certains n'ont pas le droit à avoir accès à un avocat, n'ont pas le droit à recevoir des visites. Comment est-ce que vous avez pu interpeller les autorités sur ces problèmes-là et qu'est-ce qu'on vous a répondu ?
Quand les personnes sont arrêtées au moment de l'arrestation et au moment de la garde à vue, il y a des gens qui subissent des actes de torture et de mauvais traitements parmi elles. Nous avons eu le cas d'une dame que nous avons pu sauver in extremis même de la mort. Après, quand on les envoie au niveau de la prison, qu'ils peuvent mieux respirer. Sauf que au niveau de la prison, ayant eu des séquelles sur le corps, parfois il est difficile que ces personnes aient accès à un médecin. Maintenant, nous, en tant que CACIT, nous avons pu approcher les autorités, discuter avec elles et au regard du travail que nous faisons, ils nous autorisent quand même à aller rencontrer ces personnes avec nos médecins et les médecins leur apportent un certain nombre d'assistance avec des médicaments ou autre chose. Nous, on leur commet un avocat, mais normalement, c'est au moment même de l'interpellation qu'on doit leur signifier que vous devez faire appel à un avocat ou leur commettre un avocat d'office. Donc, les gens, pour la plupart, n'ont pas d'avocat. Actuellement, nous avons même un avocat qui s'est encore déplacé dans le Nord pour assister les personnes détenues au niveau de Kara.
Et justement, vous parlez de Cara, vous avez également regardé ce qui s'est passé à Sokodé, bien sûr, où il y a aussi des grandes manifestations, à Takpamé, Dapaong. Est-ce que les violences ont été plus fortes en dehors de la capitale, où peut-être qu'on peut moins voir ce qui se passe, c'est moins relayé par les médias aussi?
À l'intérieur du pays, il y a eu plus d'engagement du côté des manifestants. Par exemple, à Mango, on se rappelle qu'à la veille d'une manifestation des partis au pouvoir, certains jeunes de la localité ont voulu empêcher ces personnes de manifester. Il y a eu même des gens qui ont été blessés. Et donc, le lendemain, les forces de l'ordre sont arrivées et ils ont voulu être en grippe de l'ordre dans la région et donc se sont attaqués aux populations. Au lieu de faire jouer le rôle de tampon, ils se sont plutôt attaqués eux aussi en tant que force de l'ordre aux populations et c'est ça que nous déplorons. Et donc à l'intérieur du pays, nous pensons véritablement qu'il y a eu plus de répression, plus de violations des droits de l'homme qu'à Lomé, notamment à Mango, à Sokodé, à Bipafilo. Les gens ont voulu manifester leur ras-le-bol de manière encore plus violente.
Et vous critiquez également les dénominations qui ont été données, les appellations données aux manifestations de la part des partis, des regroupements d'opposition. Vous citez les marches de la colère, les marches de la résistance qui induisaient déjà une agressivité qui était peu propice à ce que ça se déroule de façon pacifique.
Oui, effectivement, quand vous voulez manifester et que c'est des manifestations publiques dites pacifiques, vous deviez vous abstenir de donner un certain nombre de slogans ou de noms à ces manifestations qui vont porter les manifestants, ceux qui vous suivent, à penser qu'ils ont tous les droits, ils ont le droit d'aller au-delà de la loi.
Et qu'est-ce qui est prévu le 22 décembre prochain? La nuit des droits de l'homme, qu'est-ce que c'est?
Oui. La nuit des droits de l'homme, c'est une activité que le CACIT organise avec Pain pour le Monde, Brot für die Welt en Allemagne et l'Union européenne, pour primer les acteurs qui, au plan national, ont travaillé, se sont engagés pour la promotion et la protection des droits de l'homme, surtout si on voit le contexte dans lequel nous sommes, où c'est difficile de s'engager de manière objective, où de part et d'autre, vous êtes critiqués. Donc pour nous, cette année, nous avons mis le thème de « respectons nos engagements ». Nous avons même associé les autorités et le secrétaire d'État aux droits de l'homme à cette activité. Donc ce sera une soirée de récompense, mais en même temps une soirée de plaidoyer, une soirée qui appelle à un engagement, à un sursaut vers le respect des droits de l'homme, les textes que le Togo a abondamment ratifiés au niveau international. Ça aura lieu le 22 décembre à Agora Senghor, une grande salle qui se trouve presque en milieu de la ville de Lomé, à partir de 18h.
Et c'est ouvert au public?
Oui, à tout le monde et à inviter d'ailleurs.
Et encore une question, vous êtes actuellement en Allemagne. L'année prochaine, le Togo se prépare à des élections législatives et locales, à un référendum constitutionnel qui risque d'être boycotté par une partie de l'opposition. Qu'attendez-vous du côté des partenaires européens, notamment de l'Union européenne, de l'Allemagne, pour que cette année 2018 se passe de façon peut-être plus paisible?
Déjà, la première des choses, c'est qu'ils puissent appeler les différents acteurs à s'entendre sur l'essentiel. C'est vrai que quand on dit ça, ça fera sourire plus d'un, parce qu'au Togo, on sait qu'il y a eu plusieurs dialogues, plusieurs résolutions qui ont été prises, mais très peu de mise en œuvre.
Oui, et là, l'opposition refuse d'aller au dialogue tel qu'il est proposé par le président Fornia Simbi, puisqu'ils exigent le départ ou la promesse du départ du président avant même que d'entamer ce dialogue. Donc c'est un petit peu une impasse politique là pour le moment.
Pour nous, nous pensons qu'il faut que les partis politiques de l'opposition aussi comprennent qu'au regard du contexte, ce serait compliqué d'aller à un dialogue en demandant dès le départ quelque chose qui va crisper la partie adverse.
Donc pour vous, la solution ne peut venir que des acteurs togolais, côté pouvoir et côté opposition, de la société civile aussi. Mais finalement, un pays comme l'Allemagne ou un partenaire comme l'Union européenne a peu d'influence sur le règlement de la crise? Ou est-ce qu'il y a des leviers de pression qui pourraient être encore mis en œuvre?
Oui, essentiellement, ils reviennent aux Togolais eux-mêmes. de s'asseoir et de sortir de cette situation. Néanmoins, la communauté internationale aussi a toujours son rôle à jouer, le rôle de pression sur les autorités. Ils ont des leviers, forcément. On s'en souvient que en
Il y a eu des
2005.
sanctions, il y a eu la suspension de la coopération économique. Est-ce que ça a aidé à infléchir le pouvoir selon vous, ou est-ce que finalement c'est surtout la population qui en pâtit?
Faire des sanctions de manière générale, ça, c'est la population qui en pâtit le plus. Et nous avons déjà connu ça dans le pays. Et au regard du contexte social aujourd'hui, il ne serait pas envisageable de faire une sanction, hein, d'ordre général sur le pays. Néanmoins, l'Union européenne et les autres acteurs peuvent faire des sanctions ciblées sur les personnes, des responsables, pour voir dans quelle mesure ils peuvent leur empêcher un certain nombre de libertés, ils peuvent leur refuser un certain nombre de libertés à pouvoir circuler, ils peuvent les appeler à leur responsabilité internationale en leur disant clairement que s'ils ne respectent pas ces engagements-là, ils vont, à un moment ou à un autre, les lâcher. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que jusqu'à quel point elle lâchera si on sait qu'il y a des questions géopolitiques aussi qui se jouent.
Donc, vous pensez que l'Union européenne a encore besoin du régime de Faure Gnassingbé au Togo?
Ça, je ne saurais vraiment le dire. Je n'ai pas les réponses pour ça. Mais ce que je puis dire, c'est que au-delà de tout, il y a la France qui reste présente au Togo. Même si le président Macron dit aujourd'hui qu'il revient aux Africains de faire face à leurs responsabilités, on ne peut pas nier non plus le fait que, ne serait-ce que psychologiquement, les Togolais continuent pas à penser que la France a un certain rôle à jouer. Et donc, c'est à la France de donner des signaux forts pour montrer que les Togolais se trompent.
Grand merci à vous pour cet entretien.
C'est moi qui vous remercie, madame.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Ghislain Kofiniakou du collectif des associations contre l'impunité au Togo, le CACIT. N'hésitez pas à nous écrire à français@dw.com. Salut et à la semaine prochaine.